S'il n'était pas chargé d'officielles fonctions auprès de la reine, ce qui eût constitué une trop ouverte provocation envers le roi Édouard, Mortimer en fait dirigeait les négociations. L'évêque de Norwich subissait son ascendant. John de Cromwell ne se privait pas de déclarer qu'on avait fait injustice au baron de Wigmore, qu'un roi se montrait peu avisé qui s'aliénait un seigneur de si grand mérite. Le comte de Kent s'était définitivement pris d'amitié pour Mortimer et ne décidait rien sans son conseil. Il était su et admis que Lord Mortimer restait après souper chez la reine, qui requérait, disait-elle, son conseil. Et chaque nuit, sortant de l'appartement d'Isabelle, Mortimer secouait par l'épaule Ogle, l'ancien barbier de la Tour de Londres, promu à la fonction de valet de chambre, qui l'attendait en somnolant sur un coffre. Ils enjambaient les serviteurs endormis sur le dallage des couloirs, et qui ne soulevaient même plus de dessus leur visage le pan de leur manteau, habitués qu'ils étaient à ces pas familiers. Aspirant d'un poumon conquérant l'air frais de l'aube, Mortimer rentrait en son logis de Saint-Germain-des-Prés, accueilli par le blond, rose et attentif Hallsby, qu'il croyait, naïfement, seul confident de sa royale liaison. La reine à présent, la chose était sûre, n'en rentrerait en Angleterre que lorsque lui-même y pourrait rentrer. Le lien entre eux jurait de jour en jour, de nuit en nuit, se faisait plus étroit, plus solide. Et la petite trace blanche sur la poitrine d'Isabelle, où il posait les lèvres, comme rituellement avant de la quitter, demeurait la trace visible de l'échange de leur volonté. Une femme peut être reine, son amant est toujours son maître. Isabelle d'Angleterre, capable de faire front seule aux discordes conjugales, aux trahisons d'un roi, à la haine d'une cour, frémissait longuement quand Mortimer posait la main sur son épaule, sentait son cœur fondre lorsqu'il s'éloignait de sa chambre et portait cierge aux églises pour remercier Dieu de lui avoir donné un si merveilleux péché. Mortimer absent, fût-ce pour une heure, elle l'installait en pensée devant elle sur le plus beau siège et lui parlait tout bas. Chaque matin, à son réveil, avant d'appeler ses femmes, elle se glissait dans le lit vers la place que son amant avait abandonnée quelques moments auparavant. Une matrone lui avait enseigné certains secrets bien utiles aux dames qui cherchent plaisir hors mariage. Et l'on chuchotait dans les cercles de la cour, mais sans y voir offense, car cela semblait une juste réparation du sort, que la reine Isabelle était aux amours comme on eût dit qu'elle était aux champs, ou mieux encore, aux anges. Les préliminaires du traité qu'on avait fait traîner en longueur furent pratiquement signés le 31 mai entre Isabelle et son frère, avec l'agrément réticent d'Édouard, qui récupérait son domaine aquitain, mais amputé de l'Agenais et du Bazadais, c'est-à-dire des régions que l'armée française avait occupées l'année précédente et moyennant en outre un versement de 60 000 livres. Valois, là-dessus, s'était montré inflexible. Il n'avait pas fallu moins que la médiation du pape pour parvenir à un accord toujours soumis à l'expresse condition qu'Édouard viendrait rendre l'hommage, ce qu'il répugnait visiblement à faire, non plus maintenant pour de seuls motifs de prestige, mais pour des raisons de sécurité. On convint alors d'un subterfuge qui semblait satisfaire tout le monde. Date serait prise pour ce fameux hommage. Puis Édouard, en dernière minute, feindrait d'être malade. Ce qui serait d'ailleurs à peine un mensonge, car à présent, lorsqu'il était question qu'il mît le pied en France, des malaises anxieux l'étouffaient. Il pâlissait, sentait fuir les battements de son cœur et devait s'allonger haletant pour une heure. Il remettait alors à son fils aîné, le jeune Édouard, les titres et les possessions du duc d'Aquitaine et l'enverrait à sa place prêter serment. Chacun en cette combinaison se jugeait gagnant. Édouard échappait à l'obligation d'un voyage redouté, les Despensers évitaient le risque de perdre emprise sur le roi, Isabelle allait retrouver son fils préféré dont elle souffrait d'être séparée. Mortimer voyait tout le renfort qu'apporterait à ses desseins futurs la présence du prince héritier dans le parti de la reine. Ce parti ne cessait de s'accroître, et en France même. Le roi Édouard s'étonnait de ce que plusieurs de ses barons, en cette fin de printemps, aient eu nécessité d'aller visiter leurs possessions françaises, et il s'inquiétait plus encore de ce qu'aucun ne revint. D'autre part, les Despensers n'étaient pas sans entretenir à Paris quelques espions qui renseignaient Édouard sur l'attitude du comte de Kent, sur la présence de Maltravers auprès de Mortimer, sur toute cette opposition qui gravitait à la cour de France autour de la reine. Officiellement, la correspondance entre les deux époux demeurait courtoise, et Isabelle, dans les longues missives par lesquelles elle expliquait la lenteur des négociations, appelait Édouard « doux cœur ». Mais Édouard avait donné l'ordre aux amiraux et shérifs des ports d'intercepter tout courrier, quel qu'il fût, porteur de lettres envoyées à quiconque par la reine, l'évêque de Norwich, ou toute personne de leur entourage. Ces messagers devaient être amenés au roi sous une escorte sûre. Mais pouvait-on arrêter tous les Lombards qui circulaient avec des lettres de change?